Radio Starbucks.
Morning Edition from NPR News.
Lo que se reproduce en esto en la radio.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, la première escale sonore d'un jour dans le monde nous emmène à Gaza, où la réconciliation entre le Hamas et le Fatah ne va pas de soi pour les brigades armées de Gaza. C'est l'un des obstacles à cette réconciliation. C'est aussi une question à poser à notre invitée ce soir, Aliza Bin Noun, qui est ambassadrice d'Israël en France. On parlera aussi, sans doute, surtout d'ailleurs, du Liban, de l'Iran, des bruits de guerre ou pas, avec le Hezbollah. 18h40, l'actualité en série. Trump, saison 2. Grégory Phillips vous expliquera notamment que pour montrer son attachement à l'administration en ce moment, on casse des cafetières, figurez-vous. 18h50, Noël Gallagher, que Mathieu Culeron a rencontré. Il sera en concert à Radio France, c'est lundi. Et il y a du nouvel album, évidemment, dans l'air. 18h55, l'édito du journal Le Monde, Sylvie Kaufmann et Theresa May, avec un job impossible en ce moment. Le monde est vaste, on n'a pas toute la journée.
Fabienne Saint-Esse. Un jour dans le monde.
Il ne vous a pas échappé donc que le Liban était revenu brutalement dans l'actualité par le biais de l'Arabie Saoudite, en filigrane toujours l'Iran, la grande obsession d'une grande partie de cette région qui regarde aussi ce qui va se passer chez les voisins syriens maintenant qu'on parle de plan de paix même de loin. Et au milieu, et comme toujours, j'ai presque envie de dire Israël et ses relations avec ses voisins, les bruits de guerre contre le Hezbollah qui affairent les commentateurs politiques en ce moment. En tout cas, bonsoir Aliza Bin Noun.
Bonsoir.
Ambassadrice d'Israël en France, merci de votre présence dans Un jour dans le monde. Je vais vous poser la question cachée carrément. Est-ce qu'Israël se prépare à une nouvelle guerre contre le Hezbollah sur le terrain du Liban ou pas ?
Israël ne veut pas la guerre. Israël n'a jamais voulu la guerre. Et Israël, de l'autre côté, va faire tout ce qui est possible et tout ce qu'il doit faire pour protéger la population israélienne. C'est vrai que la situation aujourd'hui est très tendue. Hier, on a déplacé des dômes de fer dans la région de Tel Aviv à cause des menaces qui viennent de la bande de Gaza. Et en même temps, vous avez bien décrit, il y a aussi des menaces du côté de Hezbollah. Mais non, Israël ne veut pas la guerre et Israël ne veut pas voir des victimes. Et nous espérons que ça ne va pas se détériorer.
Mais alors justement, vous espérez que ça ne va pas se détériorer. J'entends votre phrase qui dit « Israël va faire tout son possible ». Ça veut dire quand même que vous avez ça réellement, j'allais dire, dans un coin de votre tête. Ça veut dire qu'il y a une probabilité que vous évaluez, sincèrement ?
La situation est très très claire, parce que lorsqu'il y a des menaces et lorsqu'il y a un pouvoir, et en tant que Hezbollah qui possède 150 000 des missiles dans le cible Israël, et lorsqu'il y a l'entité terroriste qui est reconnue d'ailleurs même par la France comme une entité terroriste dans la bande de Gaza qui menace Israël, et Israël doit se préparer, Israël doit se protéger. Et les déclarations des jours et des semaines dernières étaient des déclarations très, très inquiétantes par rapport à ceux qui sont très, très hostiles à Israël.
Alors, les déclarations de qui à ce moment-là ? Parce que les derniers épisodes, et ce qui a fait un peu monter la sauce, vous l'avez suivi comme nous, c'est lorsque Saad Hariri a donné sa démission depuis Riyad. Et Benjamin Netanyahou, à ce moment-là, a prouvé très vite en disant qu'il fallait prendre des mesures contre l'agression de l'Iran qui vise à transformer la Syrie en deuxième Liban, fermer les guillemets. Ça veut dire quoi ? Exactement, et ça donne quelle sorte d'avertissement, cette phrase ?
Ça veut dire qu'Israël est très très inquiétante. Lorsqu'il y a l'Iran qui soutient des entités terroristes...
Très très inquiète, vous voulez dire ?
Très inquiète, très très inquiète, oui. Et lorsqu'il y a des entités comme Hezbollah et comme et Hamas qui menacent presque chaque jour Israël et la population israélienne, et en même temps, nous savons que l'Iran est très impliqué dans le dossier balistique et les déclarations qui sont faites par des dirigeants iraniens et contre Israël. Et l'infrastructure qui est en train de s'établir au sud Liban et en sud Syrie, dont encore une fois le cible est Israël, Israël va être toujours et il sera toujours prête à réagir et prête à défendre la population israélienne. Oui, c'est la raison pour laquelle on a déplacé le dôme de fer dans la région de Tel Aviv.
Est-ce que vous avez le sentiment que les choses se sont accélérées ces trois derniers jours ? À quoi sert pour vous la démission de Saad Hariri ? Est-ce qu'elle sert à quelque chose, cette mise sur la touche ?
C'était vraiment une preuve que ce qu'a dit Israël pendant déjà des mois, qu'il y a une menace, une vraie menace et au Liban, et par rapport à Hezbollah, que c'est une menace qui n'est pas transmise ou qui n'est pas véhiculée que par Israël et d'ailleurs les pays du Golfe, mais aussi par le premier ministre libanais.
Parce que vous croyez ce qu'il dit, Saad Hariri ? Vous ne pensez pas qu'il a parlé sous contrôle des Saoudiens, par exemple ? Vous pensez que réellement, lorsqu'il parle...
Bien sûr. Il a dit les choses telles qu'elles sont. Le Hezbollah est une entité qui vraiment menace la stabilité du Liban et de toute la région. Et encore, il faudra qu'ils menacent Israël parce que nous sommes les voisins les plus proches de Liban. Oui, je pense qu'il faut prendre ce qu'il a dit d'une manière très, très, très sérieuse.
Mais est-ce que vous approuvez l'attitude en ce moment de l'Arabie Saoudite? Est-ce que vous avez le sentiment que Hariri est libre de ses mouvements? Je vous pose la question parce que son retour au Liban, est-ce que ce n'est pas un gage de stabilité finalement en face du Hezbollah?
Je sais que la France était très engagée les dernières semaines, même les derniers jours, pour exactement résoudre ce conflit. Et j'ai entendu que le dirigeant français, y compris le ministre des Affaires étrangères, ont dit que oui, qu'il est libre d'une manière ou d'une autre. Alors,
il faut qu'il rentre.
Ceux qui sont vraiment impliqués.
Mais est-ce que vous souhaiteriez qu'il rentre? Est-ce que vous pensez que le fait qu'il rentre pourrait peut-être apaiser les tensions?
C'est une vraiment une décision que Saïd Hariri doit faire parce que c'est sa vie qui était menacée par le Hezbollah. Et nous avons entendu très clairement ce qu'il a dit. Alors, je pense que oui, c'est cette décision, mais il faut prendre et il faut faire attention à ce qu'il a dit par rapport à la menace du côté de Hezbollah. Ça, c'est très, très, très important et c'est tout à fait compatible et avec le message qu'Israël a diffusé les derniers mois.
Vous avez entendu, comme moi, j'imagine, ce que dit notamment la presse israélienne, ce que disent certains observateurs. Je pense à Dan Shapiro, qui est l'ancien ambassadeur d'Israël aux États-Unis, qui a dit « En ce moment, l'Arabie Saoudite entend demander à Israël de faire le sale boulot. » En gros, donc, de viser l'Iran sur le terrain libanais. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce genre de propos?
Je pense que ça montre que tout d'abord, il y a quelques puissants ou quelques pouvoirs dans le Moyen-Orient qui se sont rapprochés à cause de menaces iraniennes. Et la position de l'Arabie Saoudite et de certains pays du Golfe est tout à fait similaire à celle d'Israël. Ça veut dire qu'il y a une menace, une vraie menace qui pèse sur la région. Et il faut, et je pense que les pays occidentaux doivent réagir parce que c'est très très dangereux et ça peut se détériorer très très vite.
Ça veut dire aussi que vous êtes très sérieusement rapproché de l'Arabie Saoudite, des Sunnites d'une manière générale, mais de l'Arabie Saoudite en particulier. Est-ce qu'il y a une réelle alliance objective en ce moment entre vous et l'Arabie Saoudite?
Israël n'a pas de relation diplomatique avec l'Arabie Saoudite
Les
autres pays du Golfe.
On sait aussi qu'il peut se passer des choses diplomatiquement.
Non, mais ça c'est la réalité. Mais c'est vrai que les dernières années, encore une fois à cause de menaces iraniennes, il y a un certain rapprochement. On peut voir cela, c'est très clair.
Pardon, mais ça s'appelle une vraie obsession commune que vous avez les uns et les autres.
Exactement, il y a un intérêt commun. Oui, il y a un intérêt commun. Il y a une menace, notamment l'Iran, qui menace vraiment la stabilité et la sécurité de la région. Et en ce cas, lorsqu'il y a des pays qui comprennent qu'il faut s'assembler, qu'il faut coopérer, je pense que ça c'est exactement, c'est une bonne occasion de ce qui arrive dans la région, qui d'ailleurs n'est-ce pas un développement qui est très très positif.
Elisa Benoun, à l'instant même, le président français Emmanuel Macron invite le Premier ministre démissionnaire, donc Saad Hariri, Premier ministre libanais, et sa famille d'ailleurs en France, et c'est ce qu'il a dit après un entretien avec le prince héritier saoudien, et c'est un communiqué qui vient de l'Elysée. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette invitation d'Emmanuel Macron en France pour Saad Hariri?
Peut-être qu'il veut et qu'il y a des choses qu'il veut aboutir avec Saïd Hariri, que la France, tout d'abord la France exprime et son amitié par rapport à Saïd Hariri, c'était toujours le cas. Ils se sont rencontrés et dans le Golfe il y a quelques jours, et le fait qu'il l'appelle pour venir en France, ça veut dire qu'il y a des choses qui, je m'imagine, qu'il faut ou qu'ils doivent discuter ensemble.
Avec un rôle à jouer, y compris pour la France, pour apaiser notamment ce genre de tension, éviter qu'on en arrive à
C'est ce que la France essaye faire. Ça, c'était un des sujets qui était soulevé pendant le séjour du président dans le Golfe. Et même après, il y a des entretiens. La France est très inquiète par rapport à la situation au Liban. Il y a les relations historiques entre la France et le Liban. Et oui, nous voulons tous, c'est la France, Israël, les pays modérés dans la région, et que la stabilité, revienne.
Aliza Benoun, comment vous voyez le rapprochement en ce moment entre le Fatah et le Hamas? On va entendre un reportage tout à l'heure dans Un jour dans le monde, montrer qu'effectivement les choses ne sont pas si simples. Mais est-ce que vous encouragez en Israël ce rapprochement?
Il faut comprendre que pour Israël, pas beaucoup a changé parce que l'entité de Hamas dans la bande de Gaza est une entité terroriste qui continue de menacer Israël. On a entendu qu'il y a quelques jours, il y avait un tunnel en Israël qui était détruit par Israël. Et oui, il y avait 12 terroristes qui ont été tués. Mais les déclarations qui sont faites par le Hamas, leur position par rapport à Israël, le fait qu'ils ne reconnaissent pas Israël, qu'ils ne veulent pas céder leur politique terroriste, pour Israël, ce sont de très mauvaises nouvelles. Alors peut-être qu'ils vont se rapprocher, il reste à voir. On a essayé déjà dans le passé, l'Égypte a essayé dans le passé de rapprocher les deux côtés. Mais en ce qui concerne Israël, nous suivons la rhétorique de Hamas et s'il y a vraiment des changements par rapport à la politique de Hamas vis-à-vis Israël. Et là, il n'y a pas aucun changement.
Et par rapport, j'imagine, à la reconnaissance d'Israël, mais est-ce que ça veut dire qu'en cas de négociation, s'il y a rapprochement, ça invalide toute négociation, ça empêche de les faire parce qu'il peut y avoir du Hamas dans ces négociations s'il y a eu un rapprochement?
Ils peuvent négocier.
Ça veut dire que ça fait une ligne rouge pour vous, ça?
Non, pour nous, Israël a quelques atteintes par rapport au Hamas. Israël veut que le Hamas reconnaisse Israël, Israël veut que le Hamas accepte les trois conditions de cour à tête qui sont encore valides, que le Hamas décide de ne pas utiliser des terroristes contre Israël, que Hamas libère les corps de soldats et aussi les trois Israéliens qui sont tenus comme otages et dans la bande de Gaza, et que Hamas s'éloigne de l'Iran. L'année dernière, les relations entre l'Iran et le Hamas se sont renforcées, malgré le fait qu'il s'agit d'un côté d'un pays chiite et de l'autre côté d'une entité sunni.
Mais du coup, encore une fois, pardonnez-moi, s'il y a renégociation, parce qu'on en parle aussi avec les Américains, les allers-retours réguliers de Kushner, on parle aussi d'un retour, d'un processus de paix. S'il y avait ce retour et ces négociations avec les Palestiniens, est-ce que si de l'autre côté les Palestiniens étaient réconciliés avec le Hamas, ce serait une ligne rouge? Vous diriez non, nous on négocie pas si ces gens sont à l'intérieur des négociations?
Lorsque le Hamas ne change pas la politique par rapport à Israël, et la situation pour Israël ne change pas. Et s'ils vont entrer dans le gouvernement et de l'autorité palestinienne, si on arrive à cela, ce sera un très grand problème. Parce que soit ils changent leur politique vis-à-vis d'Israël, qui est une politique très très hostile, qui vraiment appelle à la destruction d'Israël, soit ils continuent avec cette politique, ce qu'ils font aujourd'hui, et là, il n'y a rien sur lequel on peut discuter.
Est-ce que vous savez d'ailleurs, est-ce que vous avez une idée de la nature du plan de paix qui semble se préparer, mais tout ça a l'air extrêmement flou. On voit bien, je le disais, que Jared Kushner fait des allers-retours très très réguliers dans la région. Donc au nom du président Trump, est-ce que vous voyez se dessiner quelque chose ou pas du tout?
Tout d'abord, c'est très bien qu'il y ait cet effort par rapport aux Américains d'avancer et la situation et les relations entre Israël et l'autorité palestinienne. Ça, c'est déjà un bon signe. Il faut attendre, parce que le président américain s'est exprimé récemment, qu'ils vont diffuser leur programme dans l'avenir proche. Maintenant, de quoi il s'agit et comment ça va se matérialiser?
Et on n'en sait rien pour l'instant, en fait.
Il reste à voir, parce que c'est un procès de négociation.
Une dernière chose, Aliza Benounoui, un long processus, comme vous dites. Israël a refusé l'entrée à certains parlementaires qui souhaitaient se rendre en Israël, notamment Clémentine Autain, notamment Pascal Durand, notamment Pierre Laurent. Ça fait beaucoup de bruit ici. Pourquoi ce refus?
C'est très simple, merci pour cette question, parce que je sais qu'on parle de cela et les derniers jours. Très simple, parce que ces membres du Parlement appellent au boycott d'Israël. Et ici, il ne s'agit pas d'un malentendu politique de la future des implantations ou le Cisjordanie. Il s'agit de la légitimité de l'État d'Israël, qui était d'ailleurs très très accentuée par rapport à la centaine de la déclaration Balfour. S'il y a des parlementaires français qui appellent au boycott, ce qui est interdit, comme je comprends, selon la loi française, ça c'est un appel à boycotter Israël. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre du gouvernement israélien?
Vous pensez que cette association effectivement qui appelle au boycott, c'est une manière aussi de ne pas reconnaître l'État d'Israël?
Bien
c'est
sûr,
quand même très très lointain.
C'est travailler, c'est investir des efforts contre la légitimité de l'État d'Israël. Exactement de quoi il s'agit les dernières semaines par rapport à la déclaration de Arthur Balfour, qu'on a fêté maintenant 100 ans à cette déclaration. De quoi il s'agit ici? De la légitimité de l'État d'Israël.
Qu'est-ce qu'ils n'ont pas remis en cause? Ils ne parlent jamais de remettre en cause la légitimité d'Israël.
Mais lorsqu'on appelle à boycotter un pays démocratique, le seul pays démocratique au Moyen-Orient, ça c'est très très clair. Et aussi, il faut ajouter ici que la raison pour laquelle ils veulent entrer en Israël, c'est visiter des terroristes, Barghouti et Salah Khamouri, qui étaient condamnés.
Alors Marwan Barghouti est condamné effectivement
et
très lourdement
à cause, oui, de l'assassinat et des 5 Israéliens.
Salah Khamouri est dans un régime extrajudiciaire qui est encore autre chose.
Sûr,
il avait une peine et il l'a purgée, Salah Khamouri.
Parce que Khamouri, il était arrêté arrêté en 2005 parce qu'il a tenté d'assassiner un rabbin israélien. Il était en prison jusqu'à 2011 et lorsqu'il était libéré, quand il y avait des changes de soldats israéliens de l'origine, pas origine française, mais il avait aussi une nationalité française, Gilad Shalit. Après, il a continué ses engagements par rapport à l'organisation terroriste PLFP. Et nous savons très bien qu'est-ce que le PLFP a dit.
Mais du coup,
Il était averté et malgré cela, il a continué.
Et du coup, Lisa Binoun, ce sera la dernière question. Pardon. Est-ce que ça veut dire que lorsque la France, au moins, est préoccupée face, ce sont les termes exacts, hein, préoccupée face au recours extensif et la détention administrative, ça vous choque ou pas qu'on pose ce genre de questions, nous, d'ici ?
Non, parce que ça, c'est une position qui est très connue en Israël, mais il faut ici accentuer le fait que la détention administrative n'est pas contre la loi internationale. Et s'il y a un cas où il faut protéger la population, parce qu'il y a d'informations et de renseignements et qu'il y a un attentat qui est en train de se matérialiser, oui, il faut protéger la population. Et il faut aussi ici que c'est sous le contrôle très strict des juges et tous les processus, ok, est très très contrôlé par les autorités juridiques israéliennes et encore une fois d'un pays démocratique dans la région.
Mais qui a du mal à faire entrer les gens qui ne sont pas d'accord avec lui, du coup.
Bien sûr, parce que si on soutient des terroristes, il y a un problème.
Allez, on aurait pu poursuivre cette discussion bien longtemps. Lisa Binoun, ambassadrice d'Israël en France, merci beaucoup de votre présence dans Un jour dans le monde.
France Inter, Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Et la suite donc qui continuera finalement cette discussion qu'on vient d'avoir. On ira à Gaza voir comment se désarment les brigades à Gaza en ce moment, 18h40. Trump, saison 2, les turpitudes de Donald Trump. Grégory Phillips, qu'est-ce que c'est que cette histoire de machine à café ?
Alors j'essaierai de vous expliquer pourquoi des électeurs de la droite conservatrice défoncent leur cafetière à grands coups de masse et diffusent ces images sur Internet.
Eh ben écoutez, on verra ça dans un instant. Mathieu Culeron, vous allez nous parler de Noël Gallagher. Vous...
Oui, c'est la sortie du troisième album, c'est un événement. Et puis ce sera vendredi prochain la sortie donc de son troisième album. Et puis lundi, c'est un concert exceptionnel ici à la Maison de la Radio en direct du studio 105.
Voilà, vous avez intérêt à venir avec des places. Lou Reed et la Vicious. Lou Reed, l'excellent Lou Reed, Vicious sur France Inter. Voici l'excellente Florence Paracuellos. Power Hit Radio. Magic FM. Terra Radio. This is every place for 60 minutes. Florence Paracuellos qui passe sous les radars comme tous les soirs pour aller dénicher l'actualité internationale qui vous a échappé. Direction Florence, les États-Unis d'abord qui ne cesseront jamais de nous étonner avec leur question des armes.
Bienvenue dans le Wisconsin, Fabienne, vaste état du Middle East américain. Samedi, c'est l'ouverture de la chasse aux cerfs là-bas et nouveauté cette année, en se promenant dans les bois, on pourra voir des bambins chassés. Le gouverneur républicain du Wisconsin vient d'autoriser les enfants de moins de 10 ans à chasser pour de vrai, avec de vrais fusils. Plus de limite d'âge, à condition d'être accompagné par un adulte. La NRA, qui fait la promotion des armes aux États-Unis, est ravie, comme le sont tous les chasseurs rencontrés par un reporter de la télé locale NBC 26. Quand j'étais petit, j'allais à la chasse avec mon père. J'avais 5 ou 6 ans, j'ai beaucoup appris.
Je pense que c'est super pour les valeurs familiales. C'est important de faire des choses en famille.
Il n'y
a pas de problème de sécurité, parce qu'on élève nos enfants, on sait de quoi ils sont capables, alors on fait très attention. Et ben voilà, des armes entre les mains de petits-enfants, pas de problème. Mmh. On n'a plus qu'à surveiller les faits divers et les chiffres. 32 000 morts par arme à feu chaque année aux États-Unis.
Mais vous savez, sans rire, moi j'ai vu des petites armes à feu comme ça, roses pour les filles et
forcément,
bleues pour les garçons.
C'est un marché, mais c'est quand même le premier État qui autorise à chasser, à porter une arme, un fusil, donc à n'importe quel âge.
Vous voyez, il y en a qui vont au baseball et d'autres à la chasse. Allez, nous partons pour le Japon, c'est nettement moins drôle. Enfin, d'ailleurs, ça ne l'était pas tellement, avec un sujet qui fait souvent l'actualité là-bas.
Et oui, ce sujet, c'est le suicide. Le Japon bat toujours le record du taux de suicide le plus élevé des pays du G7, 20 000 chaque année, plus de 30 000 il y a 10 ans. Et si la question fait de nouveau la une ces dernières semaines, c'est à cause d'un fait divers sordide.
Shiraishi Takahiro Yomisha wa Zamashinai no apato de...
Il est le nouveau visage du mal au Japon, Takahiro Shiraishi, un tokuyite de 27 ans dans son appartement. La police a découvert les restes de 9 corps de jeunes gens, parmi lesquels 3 lycéennes. Le tueur les a recrutés sur Twitter avec ce pseudo bourreau professionnel. C'est comme ça qu'il attirait les candidates au suicide. Une jeune femme de 23 ans notamment, elle écrivait qu'elle cherchait quelqu'un pour mourir. C'est sur Twitter que son frère a remonté la piste jusqu'à Shiraishi et c'est sur Twitter que les enquêteurs lui ont tendu un piège en utilisant une autre jeune femme comme appât. Au Japon, cette affaire a rouvert le débat sur l'usage des réseaux sociaux par les jeunes suicidaires. Au début des années 2000, le problème c'était les suicides collectifs organisés sur Internet. Maintenant, c'est Twitter qui n'interdit pas grand-chose et donc pas les messages suicidaires. Et quand bien même, cela ne réglerait sans doute pas la question. En juillet dernier, un plan a été adopté pour faire baisser le nombre de suicides de 30% dans les 10 ans qui viennent. Un plan de prévention et de détection dans les écoles, dans les collèges et les lycées évidemment, et dans les entreprises où les charges de travail et le harcèlement hiérarchique font des ravages.
Allez, on va se détendre un peu avec du foot, du rap et du chamanisme, tout ça ensemble.
On est à Lima, au Pérou, où tout va s'arrêter ce soir, Fabienne, le temps d'un match de foot. Pérou, Nouvelle-Zélande, 0-0 au match aller. Dernier match de barrage pour se qualifier au Mondial. Le vainqueur sera la 32e et dernière nation à pouvoir aller en Russie cet été. Alors tous les moyens sont bons, comme ce rite chamanique à base d'incantations, d'encens et de serpents vivants passés sur la photo de l'équipe péruvienne. Sans oublier la méthode classique, dénigrer l'adversaire néo-zélandais. Qu'est-ce qu'ils font? Leur haka habituel? Ça va pas marcher, on va les battre, on va y aller en Russie. Voilà pour la traduction d'une pensée vaudou bien profane, semble-t-il. Autre manifestation de cette ferveur péruvienne, un rap composé et chanté par des policiers en uniforme. Bah voilà, quatre policiers en uniforme dans une vidéo mise en ligne par SoFoot. Attention, le Pérou ce soir attend vraiment son heure après 36 ans d'absence en Coupe du Monde.
Attends, j'apprends une chose en vous écoutant, on fait donc le haka aussi en foot?
Eh bien, écoutez, oui, on fait le haka en foot, manifestement.
Vous m'amènerez un haka de football la prochaine fois, donc, c'est-à-dire demain. Florence Paracuelos, merci beaucoup.
À demain.
France Inter, le 18-20.
Donc, nous sommes à Gaza. Et vous avez donc entendu, c'était il y a un instant, l'ambassadrice d'Israël en France parler de cette réconciliation en cours, pas facile, entre le Fatah de Mahmoud Abbas et le Hamas à Gaza. Le processus de rapprochement, malgré tout, il est en cours. Un accord de réconciliation a bien été signé au Caire. On en a d'ailleurs parlé ici même. Et cela soulève une vague d'espoir à Gaza. Théoriquement, donc, 1er décembre, c'est demain, le Hamas devra remettre les clés de la bande de Gaza. Sauf qu'il reste une grosse question. Qu'est-ce qu'on fait des branches armées du Hamas et les autres brigades? Les milices répondent, il n'est pas question de se désarmer. Est-ce que tout cela peut faire capoter la réconciliation? C'est ce qu'on voit tout de suite avec vous, Marine Vlaovic.
Fusil à l'épaule, en tenue de camouflage et les visages dissimulés par des cagoules, une dizaine de combattants des brigades Nasser Salah al-Din sont postés dans un champ d'oliviers, quelque part dans la bande de Gaza. Il aura fallu plusieurs semaines de négociations pour rencontrer ses partisans de la lutte armée contre Israël. Un combat légitime, selon le commandant Abu Youssef.
Nous, les brigades Nasser Salah Adin, ainsi que les autres brigades, nous considérons que les armes de la résistance sont légales et qu'elles ne sont pas négociables. C'est une ligne rouge. Nous ne déposerons jamais les armes tant que nous vivrons sous l'occupation israélienne.
Mais après quelques minutes d'entretien seulement, les miliciens lèvent le camp dans l'affolement général et rangent leurs roquettes disposées à l'abri des feuillages.
On doit quitter parce qu'il y avait un drone, maintenant il y a trois.
Vas-y, on y va.
Car l'État hébreu déploie nuit et jour ses drones dans le ciel de l'enclave palestinienne pour traquer ceux que l'on appelle à Gaza les combattants de la résistance. Ils seraient de 30 à 40 000 selon les estimations, répartis dans différentes brigades inscrites sur la liste des organisations terroristes. Une myriade de groupes armés qui ont forgé l'identité de Gaza selon Abou Tayeb, ce membre du bureau politique du Comité de résistance populaire, montre du doigt l'une des nombreuses affiches à la gloire des combattants qui ornent les rues de la ville de Gaza.
C'est ça Gaza, c'est la résistance. Gaza en est fier. Nous résistons tous les jours à l'occupation. Les groupes armés travaillent nuit et jour pour libérer nos terres de l'occupation.
Une bataille qui n'est pas du goût de l'autorité palestinienne. Son président Mahmoud Abbas a opté pour la lutte pacifique contre Israël. Refusant le modèle libanais du Hezbollah, il exige le démantèlement de la branche armée du Hamas, les puissantes brigades Al-Qassam. Pour le mouvement islamiste, il n'en est pas question.
Le problème, c'est que notre président vit dans une illusion.
Arman Youssef est un membre influent du Hamas.
Il considère que Gaza et la Cisjordanie sont un État, mais ce n'est pas le cas. Le Hamas a toujours été très clair. Tant que nous serons sous occupation, nous devrons conserver nos armes pour nous défendre.
En 10 ans, Israël et le Hamas et ses alliés se sont livrés 3 guerres. Depuis 2 semaines, la tension est à son comble. L'État hébreu a bombardé un tunnel offensif du djihad islamique. La 2e force armée de la bande de Gaza promet de répliquer en temps et en heure pour venger la mort de ses 12 combattants. L'un d'entre eux, Ahmed Abu Armana, a grandi dans le camp de réfugiés de Bourej dans le centre de l'enclave palestinienne. Zaria porte le deuil de son fils qui avait à peine 30 ans, mais elle n'imagine pas la bande de Gaza sans lutte armée.
C'est impossible. Qui défendra le peuple? Sans la résistance, Israël nous aurait rayé de la carte depuis longtemps. Je souhaite que Dieu renforce la résistance et qu'il y ait d'autres martyrs comme Ahmed et les autres.
Forte de ce soutien populaire, les brigades sont décidées à tenir tête à l'autorité palestinienne. Pour ne pas mettre en péril le fragile rapprochement entre le Fatah et le Hamas, il leur faudra trouver un compromis. Ces encombrants soldats pourraient-ils être un jour intégrés à une future armée palestinienne? Mouraïmer Abou Saada, professeur de sciences politiques à l'université Al-Azhar de Gaza, est sceptique.
On ne pourra parler d'une armée nationale palestinienne que lorsqu'il y aura une nation palestinienne et que nous obtiendrons notre indépendance. C'est une option, mais cela dépendra des Palestiniens et des Israéliens, s'ils parviennent à conclure une paix totale.
Le Fatah et le Hamas doivent de nouveau se rencontrer au Caire la semaine prochaine, mais la question épineuse du désarmement des brigades restera en suspens et le chemin vers la réconciliation tant espéré par les Gazaouis est encore long.
Marine Vlaovic à Gaza pour Un Jour dans le Monde. Merci beaucoup.
France Inter.
I will work so hard.
Fabienne Saint-Ès.
I promise you, it's going to change.
Un jour dans le monde.
L'actualité en série. Le mercredi, c'est Grégory Phillips derrière le panache blond du président américain. Trump, saison 2. Dans l'épisode précédent, Grégory, Donald Trump avait un an de pouvoir. Et ce soir, vous le cueillez à sa descente d'avion. Alors, après 12 jours d'Asie, comment vous l'avez retrouvé, votre président?
Ah bah on s'était pas tout à fait perdu de vue parce que vous savez il y a Twitter donc ça nous permet avec le président Trump de rester en contact. Il est donc rentré hier soir à Washington en se félicitant du succès de cette tournée asiatique. Alors ce voyage on l'a bien raconté sur Inter, on va pas recommencer ce soir. J'ai juste choisi un moment que je tenais à vous faire entendre.
Allez-y.
Dimanche soir, dîner de gala à Manille organisé pour une 20aine de chefs d'État dont évidemment Donald Trump, et là le président philippin Rodrigo Duterte monte sur scène, prend le micro et se met à chanter une sérénade aux côtés d'une star local, je vous propose d'écouter.
Ah,
Voilà Fabienne, la chanson s'appelle « Tu es la lumière de mon monde », Duterte dit qu'il est monté sur scène pour répondre aux ordres du commandant en chef américain. Trump est hilar, belle complicité donc entre le président américain et le, disons, très controversé Rodrigo Duterte.
Voilà, bah, Mathieu Cudron qui est rentré dans le studio et qui va nous parler de Noël Gallagher dans un instant, a trouvé que tout ça était fort bien et très harmonieux. Allez, la suite, Grégory, c'est une histoire de caféine, on va très vite comprendre. Il y a un dossier que Trump suit très près depuis qu'il est rentré, c'est une élection sénatoriale en Alabama. Ça donne toujours la température, hein, les élections d'entre deux, donc ça intéresse. Seulement voilà, le candidat républicain qui s'appelle Roy Moore est empêtré dans une histoire d'agression sexuelle. Tout le monde s'en est emparé. Racontez-nous très vite qui est ce Roy Moore, ce qu'on lui reproche.
Alors, Roy Moore, ancien juge de la Cour suprême d'Alabama, ultra-conservateur, anti-avortement, anti-homosexualité, il avait d'ailleurs été démis de ses fonctions de juge parce qu'il avait refusé d'enlever un monument à la gloire des 10 commandements devant son tribunal. Vous savez, Fabienne, c'est lui aussi qui se rendait dans ses meetings avec son revolver à la main. Bref, le juge Roy Moore est impliqué dans un scandale qui fait grand bruit. Plusieurs femmes l'accusent d'agression sexuelle alors qu'elles étaient mineures. L'une de ces affaires remonte à la fin des années 70. Elle, 14 ans, lui 32 à l'époque. Moore dément, mais les témoignages se multiplient. Les élections pour le poste de sénateur d'Alabama ont lieu dans moins d'un mois et le parti républicain est en train de lâcher le juge Moore qui pour l'instant n'a pas encore renoncé.
Alors il y a donc une affaire dans l'affaire, c'est là qu'on vient doucement vers la caféine. Ce scandale Roy, il y a des conséquences pour les fabricants de machines à café, c'est quoi cette histoire ?
Alors, sur Fox News, le présentateur de l'émission politique du soir, Sean Hannity, qui est un peu le porte-voix de l'Amérique ultra-conservatrice, a dans un premier temps soutenu Roy Moore. En conséquence, plusieurs annonceurs, dont le fabricant de machines à café Keurig, on y vient, ont décidé de se retirer, ouais. De retirer leur publicité de cette émission.
Ah, vous et avez le sens du suspense, Grégory, hein.
Et en représailles, eh bien, des dizaines d'Américains ont décidé de boycotter Keurig et de se filmer en train de détruire leur propre machine à café. Écoutez, ça dure 12 secondes. Ce que vous allez entendre, c'est le son d'un téléspectateur de Fox mécontent qui, littéralement, défonce à coups de masse sa machine à café. La vidéo a ensuite été mise en ligne sur Internet.
Allez-y. Look what I found.
Piece of shit.
C'est extraordinaire. Voilà, on va pas traduire.
Est-ce que vous voulez que je traduise?
Non, bah non, je vous en prie. Ça va peut-être aller.
On a compris.
Il est pas bon ce café, finalement... c'est ça qu'a dit le monsieur.
Si j'ai bien voilà, compris. Finalement, face à l'affronte des annonceurs, Hannity a fini par lâcher le juge Moore. Mais je vous le disais, ça peut. Ce qui se passe en Alabama peut avoir des conséquences politiques parce que si jamais les Républicains perdent le siège en Alabama, ils n'auraient plus qu'une majorité à un siège au Sénat. L'élection a lieu le 12 décembre.
Alors vous avez 10 secondes, Grégory, pour répondre à cette dernière question. Faut-il retirer le bouton nucléaire à Donald Trump?
Ah bah si vraiment j'ai 10 secondes, je vais pas vous répondre. Je peux juste vous dire qu'on en a parlé longuement au Sénat hier. Audition organisée par le président de la Commission des Affaires étrangères pour se demander jusqu'à quel point le président des États-Unis peut décider seul ou non de déclencher le feu nucléaire. La conclusion, c'est que oui, il peut prendre la décision tout seul. La mauvaise nouvelle à l'issue de cette journée d'audition, c'est que si l'ordre était un jour donné par Donald Trump de déclencher l'arme atomique, eh bien là, plus personne ne pourrait arrêter la machine une fois que l'ordre ordre est donné. On a débattu de ça toute la journée hier au Sénat.
Ben écoutez, allez plutôt vous faire un café. Merci, bon, j'allais dire merci Donald Trump. Non, merci Grégory Philips. À très vite.
Bonne soirée.
France Inter. Un jour dans le monde.
Allez, un peu de musique, après ça, ça nous fera beaucoup de bien. Bonsoir Mathieu Cullon.
Bonsoir.
Événement, que dis-je, énorme événement, ça va se passer lundi soir. C'est ici, chez nous, dans le studio 105, à France Inter, avec la présence de Noël Gallagher. Et concert, ça veut dire nouvel album, et c'est ça aussi la bonne nouvelle.
Oui, exactement, troisième album solo pour le frère de Liam, un disque qui est en fait le fruit d'une collaboration avec le producteur David Holmes, connu pour ses productions électroniques. Et c'est donc lui qui donne ce son si particulier à ce disque. C'est un peu un virage artistique pour Noël Gallagher. Un album aux accents électroniques et rap pour un fan des Beatles, c'est un peu la révolution. Et c'est surtout une nouvelle façon de faire de la musique, Noël Gallagher.
Toutes les chansons sont parties de samples, de boucles ou de riffs, comme 90% de la musique maintenant. Mais moi, je n'avais jamais fait ça. Moi, je faisais partie des 10% à passer une année à écrire à la maison. Et là, eh bien, tu ne fais plus rien à la maison et tout en studio. Et c'était génial, j'ai adoré.
Donc ça, ce qu'on entend, ça s'appelle Holy Mountain, c'est le premier extrait du nouveau disque de Noël Gallagher, avec des morceaux, donc comme on l'a entendu, plus électro, plus rap aussi, Mathieu ?
Oui, et c'est d'autant plus étonnant qu'au départ, on soupçonnait Noël Gallagher de ne pas être le plus grand fan de hip-hop au monde.
Bah non.
Il avait notamment été très choqué d'apprendre que le rappeur Jay-Z était la tête d'affiche du festival de Glastonbury. Et pour se venger, Jay-Z avait ouvert son concert avec le tube d'Oasis Supersonic. La polémique avait duré un certain temps, mais ça, c'était il y a presque 10 ans. Depuis, tout a changé, visiblement. Noël se dit désormais inspiré par le rap et même par un proche de Jay-Z, un certain Kanye West. Écoutez l'analyse de Noël Gallagher.
J'ai adoré quand Kanye West a sorti le titre Fade, ça m'a renversé. Le jour où c'est sorti, je suis allé voir David et je lui ai dit « T'as écouté ça ?» Il a dit « Non, non, je suis pas un énorme fan du type, je sais qu'il est à moitié fou, mais j'adore la puissance de ce titre. » Et il m'a dit « Tu devrais écrire une chanson comme ça. » Je lui ai dit « Mais je sais pas rapper. » Il m'a dit « Non, mais fais comme si Kanye West allait rapper dessus et regardons jusqu'où ça nous mène. »
Voilà, Noël Gallagher inspiré par Kanye West, c'est un peu le monde à l'envers.
Ouais, c'est
mais c'est finalement rien comparé à la surprise qui s'est emparée de Noël lorsqu'il a vu sa chanson reprise par la garde républicaine française lors du match France-Angleterre en juin dernier au Stade de France. Une chanson devenue un hymne en hommage aux victimes de l'attentat de Manchester. Manchester, la ville des Gallagher, fierté donc de l'auteur de Don't Look Back in Anger.
Je regardais ça avec mes deux enfants et ils m'ont fait
«
C'est ta chanson ?» J'ai monté le volume et j'ai dit « bah oui ». C'était pour moi un honneur de voir ces gens de Paris et de Manchester reprendre cette chanson devenue un hymne de défiance envers le terrorisme. C'est triste, mais c'est aussi incroyable.
Un titre d'Oasis, moi ça me rend un peu nostalgique, pour ne rien vous cacher. Ça nous amène à la question qui tue. Est-ce que Oasis peut se reformer ?
Eh bien écoutez, c'est une question évidemment qu'on peut légitimement se poser, puisque depuis plusieurs semaines, son frère Liam passe son temps à lui faire des appels du pied pour reformer le groupe. Malheureusement, Liam qui passe aussi son temps à traiter son frère de patate sur Twitter, ce qui n'arrange pas les
Liam
choses.
Liam est le méchant et Noël est le gentil.
Voilà, c'est ça. Bref, Oasis va-t-il, peut-il se reformer ? La réponse n'est pas si claire que ça.
C'est un cliché, mais en même temps, c'est une vérité absolue. Seul un fou peut prédire l'avenir. Mais je peux dire aujourd'hui, à 1 000 000%, Oasis ne se reformera pas.
Une belle manière de botter en touche.
Ouais, voilà. Ne prédit pas l'avenir, mais 1 000 000%, c'est beaucoup quand même.
Ouais. Enfin bon. Mais 1 000 000 $, s'il se reforme, c'est bien aussi. Allez, vous nous annoncerez la suite. Merci beaucoup, Noël Gallagher. Mathieu, on le répète, qui sort un nouvel album. Ça s'appelle Who Built the Moon.
Qui a
construit la Lune, absolument. Ça sort vendredi prochain. Et puis le concert exceptionnel, c'est lundi, c'est ici, à la Maison de la Radio, au studio 105. Où sont mes places ?
Elles vous attendent, bien sûr, à l'entrée.
Sortez de mon studio. Allez. Et bonsoir Sylvie Kaufmann.
Bonsoir, moi aussi je peux avoir des places ?
Bah écoutez, oui, Mathieu, voilà, on en prendra 4, je vous prie. L'édito du journal Le Monde avec vous, Sylvie Kaufmann. On est en Grande-Bretagne ce soir, alors que les négociations sur le Brexit s'annoncent particulièrement difficiles, c'est le moins qu'on puisse dire. La Première Ministre, elle, est en très très mauvaise posture.
Oui, Theresa May est en mauvaise posture en effet, et cela ne facilite pas les choses. S'il y a un job dont vous ne voulez pas en ce moment, Fabienne, c'est celui de Premier ministre de Sa Majesté la Reine Elisabeth. Avoir à négocier la sortie de son pays de l'Union européenne est déjà en soi une tâche titanesque, un casse-tête politique et bureaucratique comme aucun diplomate n'en a jamais vu, surtout quand on est 1 contre 27 et que ces 27 pays-là, pour une fois, sont unis. Mais s'il n'y avait que ça, depuis les élections du mois de juin, qui se sont soldées par un fiasco pour Theresa May, puisque son parti, le Parti conservateur, a perdu la majorité absolue au Parlement, les ennuis s'accumulent pour la Première ministre.
Alors,
et ils s'accumulent quotidiennement.
Pardon, par exemple Sylvie.
Par exemple, Theresa May vient de perdre 2 de ses ministres en l'espace d'une semaine. Le premier, le ministre de la Défense, a été emporté par la vague du MeToo. Vous savez, cette version anglaise de notre campagne contre le harcèlement sexuel, balance ton porc. La deuxième, ministre du Développement, a dû démissionner lorsqu'il a été révélé qu'elle menait de sa propre initiative des tractations secrètes avec le gouvernement israélien pendant ses vacances. Et aujourd'hui, c'est le ministre des Affaires étrangères, le flamboyant Boris Johnson, qui est sur un siège éjectable à cause d'une gaffe d'une extrême maladresse sur une ressortissante une ressortissante britannique détenue en Iran. Comme si cela ne suffisait pas, Theresa May doit faire face à une rébellion dans les rangs de sa majorité, déjà très mince, à la Chambre des communes. Elle avait cru amadouer les députés en leur proposant de voter sur l'accord du Brexit une fois qu'il serait conclu avec Bruxelles, mais peine perdue. Ce matin, à la une du Daily Telegraph, ce n'est pas sa photo à elle qui s'est allée, mais celle des 15 révoltés du Brexit. Car comme François Hollande avant elle, Theresa May a maintenant ses frondeurs, 15 députés conservateurs qui refusent le Brexit. Pour vous donner une idée de l'ambiance délétère, l'une de ces députées a aujourd'hui contacté la police après avoir reçu des menaces sur les réseaux sociaux. Et comme en Grande-Bretagne aussi, les ennuis volent en escadrille, Theresa May se bat en même temps sur le front russe. Ses services de renseignement accusent la Russie d'avoir tenté d'influencer la campagne du référendum du Brexit, comme cela a été fait aux États-Unis, à l'aide de faux comptes Facebook pour semer la discorde et les fake news.
Donc tout ça risque de mal se terminer ?
Oui, très mal, car la position de Theresa May est de plus en plus chaotique, au point que certains se demandent si son gouvernement tiendra jusqu'à Noël. À Londres, les mauvaises langues disent que si elle tient encore, c'est d'une part parce que personne ne veut de son poste, et d'autre part parce que les conservateurs ont trop peur que de nouvelles élections portent le parti travailliste au pouvoir, et surtout son chef actuel, Jeremy Corbyn, qu'il considère comme un dangereux gauchiste. La mauvaise nouvelle dans tout ça, c'est que plus l'atmosphère politique se dégrade de l'autre côté de la Manche, plus les discussions du Brexit seront compliquées à mener pour Michel Barnier, le négociateur de l'Union européenne. Et ça, ce n'est bon pour personne.
Ben écoutez, Theresa May passera-t-elle l'hiver ? C'est la phrase qu'on retient, Sylvie Kaufmann. On en parlera d'ailleurs de demain aussi, dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup. Le 18-20, bien sûr, continue avec le journal de Sébastien Paour et puis le général Pierre de Villiers et l'invité du téléphone sonne. À tout de suite. Restez avec